Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord Diac, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le grand oral des grandes gueules.
Yann Moix, écrivain, est avec nous, auteur de son deuxième opus de l'autobiographie intitulé Reims. C'est aux éditions Grasset, après Orléans, c'est Reims. Bonjour Yann Moix.
Bonjour.
Yann Moix déconfiné. Alors en général, quand Yann Moix se déconfine, on se dit il va se passer quelque chose.
Moi j'adore le confinement, vous savez, ça fait 35 ans que je suis confiné. J'ai la même vie qu'en 1982, c'est-à-dire que je suis enfermé toute la journée, je sors juste pour aller nager et je rentre faire de la guitare et travailler. Donc je suis vraiment un as du confinement. J'ai pas vu le confinement, je sais que c'était terrible pour beaucoup de gens. Moi j'étais comme un poisson dans l'eau. Ça n'a rien changé à ma vie ici. Il y avait moins de bruit dehors.
Et c'était mieux.
J'adore ça, c'est ni moins bien ni mieux, j'adore le confinement. Je suis un être de confinement.
Vous avez un médecin en face de vous. Parce que je vous ai entendu parler des beaufs sanitaires très récemment. Alors je sais pas si ça s'adresse à Jérôme Marty.
Ah, pas du tout, non. Si vous voulez, il y a...
Je suis trop jeune, moi.
Non, il y a deux catégories de personnes, et on peut très bien même débattre ça presque philosophiquement, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a ceux pour qui... le virus doit être combattu de manière extrême, c'est-à-dire de manière reconfinée, de manière extrêmement prudente, etc. C'est une première vision de la vie qui est audible. Et une autre vision de l'existence que je défends, qui est un peu moins prudente, c'est vrai, mais qui n'est pas totalement irresponsable non plus, où on fait une sorte de péréquation entre la liberté qui est nécessaire à chaque être humain pour qu'il aille bien psychologiquement et le risque qu'il prend en adulte, en s'exposant éventuellement au danger du virus.
Mais cette question quasiment philosophique, elle a été portée par plusieurs personnes, par vous. J'ai entendu Frédéric Becbédé dire un peu la même chose, ou Nicolas Bedos. Et c'était difficile à faire passer comme message, parce que tout de suite, on va vous renvoyer les morts, soignants,
à
l'hôpital.
Vous savez, j'ai eu la chance de faire des mathématiques supérieures et spéciales. Il y a une chose que je sais, c'est que les chiffres, quand vous les arrachez à leur écosystème, ne veulent rien dire. Un chiffre ne signifie qu'à l'intérieur, et je crois que Thomas dira sans doute la même chose, c'est que un chiffre, ça vaut à l'intérieur d'un corpus, d'une théorie, d'un ensemble de choses qui sont signifiantes toutes en même temps. Mais vous prenez un chiffre et vous le collez comme ça sur un mur blanc, le chiffre, comme un poisson qui sort de l'eau, se meurt, ne veut plus rien dire. Donc la bataille des chiffres, tout le monde a raison. Tous les chiffres sont bons ou tous les chiffres sont faux. Un chiffre, c'est relatif à un ensemble.
Non, mais l'erreur, sans doute, justement, c'est de parler de chiffres dans cette pathologie.
Là, c'est pour ça que je dis que j'en parle pas.
On parle d'hommes et de femmes, et on a eu une problématique qu'on a connue encore récemment, qui est le fait que cette pathologie est contagieuse, voire très contagieuse, et que donc, pour la première fois de l'histoire, sans doute, de notre médecine, on a vu, tout d'un coup, nos services de réanimation embolisés par une même maladie. Ça n'arrive jamais. Je veux dire, chaque année, on a les services de réa qui sont embolisés par toutes les pathologies, parce qu'on sait très bien qu'on manque de lits, etc., etc. On va pas revenir là-dessus. Mais là, c'est une même maladie qui a embolisé ça, et qui a amené le politique à prendre ses décisions en urgence, qui était le confinement, qui est la plus mauvaise des solutions, puisqu'elle représente l'échec de toutes les mesures précédentes, qui ont certainement été prises pas assez tôt, ou en tout cas, qui l'ont mal été. Je vous ai entendu contre Jean-Paul Hamon, donc parler de la médecine, on s'en fout, ça c'est pas la problématique, mais c'est dire oui, mais vous ne pensez pas aux enfants qui se sont suicidés, etc. Juste ce que je peux vous dire, c'est que non seulement on y pense, mais les familles, c'est nous qu'elles viennent voir, puisque on est généraliste et donc on est au contact de cette misère sociale, de cette misère familiale, de cette misère affective. On voit tout ça, donc on le sait en conscience. Et si on s'est battu précisément depuis le début de cette affection pour essayer de mettre en place des choses qui font que l'on évite ce confinement ou qu'il soit plus court et qu'on n'y est pas arrivé quelquefois. Là, sur la fin, on y est davantage arrivé. On a tenu compte de l'aération, ce qu'on disait depuis des mois et des mois et des mois. On a tenu compte du fait que le masque, après tout, à l'extérieur, c'était pas si utile. Mais par contre, à l'intérieur, dans les conditions où la population n'était pas encore vaccinée, etc., il fallait sans doute le porter. Enfin, voilà, on est arrivé à pousser ces choses-là. Donc, faut pas faire de raccourcis. Je crois qu'il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de trucs. Il y a juste des hommes qui ont été mis face à l'inconnu. Et notre système est tel qu'il n'est fait que pour fonctionner dans ce qui est connu.
Mais je n'ai jamais dit le contraire. Je dis simplement que on a eu l'impression, et ce n'est pas qu'une impression parce que vous venez de le confirmer, qu'à un moment donné de la crise, la seule maladie qui était audible et qui était acceptable était d'avoir contracté le coronavirus. Et que toute autre pathologie on demandait poliment et gentiment d'attendre 5 minutes avant d'être traité. Et je ne voulais pas qu'on confonde la dangerosité objective du virus avec sa dangerosité relative, qui est celle d'un encombrement. Et c'est là que, finalement, vous avez raison et j'ai raison. C'est-à-dire que ça revient au même. Étant donné qu'on focalise tout sur ce virus, eh bien, forcément, qu'il soit extrêmement dangereux ou peu dangereux n'a plus de sens, puisque il est le virus qui encombre. Donc, de fait, il devient dangereux de manière relative.
Thomas Porcher.
Oui, je partage en partie. Alors déjà, sur la première partie, être l'être qui accepte la peur et l'autre, enfin, moi, j'ai été vraiment entre les deux. C'est-à-dire, non, mais je suis, moi, j'écris des livres comme vous, je suis aussi un être social, je pense que vous êtes un être social. Vous aimez
oui, bien sûr.
Voilà. Et moi, à un moment, j'ai été vraiment entre ces deux êtres. C'est-à-dire que je savais que, vu mon âge, etc., normalement, j'avais peu de risques, mais en même temps, quelque part, ce virus a changé complètement ma vie, m'a coupé, moi, de la société, de ma vie extérieure. Je sortais un livre, moi, 3 semaines avant le premier confinement. J'avais 40 dates en librairie, tout a été annulé. Je devais venir ici, j'ai pas pu venir, je m'en souviens. Enfin, tout a été annulé, donc il y a eu une vraie conséquence, en tous les cas, moi, au niveau social. Et puis après, sur les statistiques, vous avez raison, quand on sort un chiffre, c'est vrai qu'on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. En même temps, il y avait une dynamique statistique à un moment qui était très robuste. C'est-à-dire que, quand moi j'ai vu l'Italie, j'étais en pleine promo de mon livre à l'époque, quand j'ai vu ce qui se passait en Italie, j'ai mis sur un tableur Excel des contaminations journalières, j'ai mis celle de la France, très vite on voit une corrélation avec un écart de quelques jours, et je me suis dit, là, on va droit au mur. Vraiment, je dis, on va droit au mur. On peut faire tout ce qu'on veut, aller au théâtre, etc. Faire genre tout va bien, envoyer sa femme se promener sur les quais comme l'a fait Macron. On sentait que là, on allait être débordé rapidement sur les services d'urgence.
Alors revenons maintenant à vous, à votre livre. Là, vous vous êtes calmé avec ce confinement. Vous allez refaire le tour des plateaux en faisant de la provocation, en balançant ces 4 vérités à tout le monde. Yann Moix ou pas ?
Je crois qu'en fait, la provocation, elle est non pas de mon fait, mais elle advient par contraste entre ce que je continue à dire comme si l'époque n'avait pas changé et une sorte de marigot dans lequel chaque mot est une mine antipersonnelle qui explose. C'est-à-dire que si vous parlez, par exemple, ce qui est mon cas, comme en 1978 ou en 1982, de fait, vous faites de la provocation en dormant. Vous faites de la provocation en faisant la sieste. C'est-à-dire que si vous restez en pilotage automatique du vocable et même des pensées qu'on pouvait encore avoir il y a 25 ans, évidemment, vous êtes devenu aujourd'hui quelqu'un d'exceptionnel, d'étrange, presque de tératologique, un monstre. Mais je ne fais que être moi-même, et c'est vrai que je me comporte, à mes risques et périls, comme si les gens autour de moi avaient les mêmes oreilles qu'en 1986.
Mais là, quand vous racontez dans votre livre, donc le premier Orléans, c'était l'enfance, et notamment les sévices que vous avez subis pendant votre enfance. Il y a une polémique avec vos parents, etc. On va pas y revenir. Mais là, Reims, c'est vos 20 ans, quoi. Vous êtes étudiant, et là aussi vous provoquez, puisque vous racontez votre amitié avec ce militant au FNJ,
Pichon.
Qui est vraiment un néo-nazi, qui vous fait visiter Dachau. Pourquoi raconter ça, en fait ?
Écoutez, c'est pas de la provocation, c'est simplement ma vie.
Raconte de ce qu'on veut.
Vous savez, c'est une tétralogie qui est autobiographique. J'ai fait des rencontres qui sont des rencontres qui sont celles de ma vie. Géographiquement, il y avait quelqu'un qui habitait à quelques centaines de mètres de chez moi. C'était ce type. Il se trouve qu'il avait, parmi ses vices mortels, le fait de ne pas aimer les Noirs, de ne pas aimer les Arabes, de ne pas aimer les Juifs et de ne pas aimer les homosexuels. Et je peux vous dire que je n'en avais rien à faire. J'ai passivement digéré ça, c'était pas mon problème. Sa haine de l'humanité ne me concernait pas. Nous ne parlions que de cinéma, une passion commune pour le cinéma. Et voilà, c'était le seul ami que j'avais à portée de main.
Et que dit cette amitié aujourd'hui, en fait ?
Cette amitié est morte.
Vous êtes aujourd'hui.
Non, mais si vous voulez.
Pas la raconter, en fait.
Vous savez, toute la journée, dans cette société, on fait l'apologie des gens qui partent de rien et qui sont arrivés à quelque chose. Plutôt que d'avoir polémiqué sur mon cas il y a 2 ans pour me ramener à la case départ d'il y a 30 ans, on aurait dû voir que mon parcours était exemplaire. J'aurais pu devenir antisémite, j'aurais pu devenir raciste, j'aurais pu devenir comme mes parents, une sorte de parangon de l'extrême droite et de la haine. Mes parents sont vraiment à ça du fascisme hard. J'aurais dû devenir ça. Et plutôt que de me ramener violemment à la case départ comme au Monopoly, regardez ce que Yann Moix faisait il y a 30 ans, en 1988, on aurait dû dire, dans une société saine, regardez ce type. qui est parti de la haine et qui aujourd'hui est devenu écrivain, est devenu chroniqueur, est devenu réalisateur, se bat en général pour ses idées.
A fait de belles études aussi.
Fait de belles études. Non, on a essayé, si vous voulez, de m'écraser avec ce que j'ai failli devenir et que je ne suis pas devenu. Pour c'est ça, quand même inquiétant.
Pourquoi, à votre avis?
D'abord parce que je crois que, vous savez, j'ai fait 3 ans d'une émission extrêmement regardée qui s'appelle On n'est pas couché, où j'ai sans doute vexé des gens. Et quand vous vexez une personne, vous ne savez pas quelles sont les amitiés. Vous savez, à Paris, quand vous cartonnez quelqu'un, vous ne connaissez pas. Comme un domino, comme les jeux de domino, vous ne savez pas qui vous blessez sur le chemin. Il y avait ça. Je pense aussi, les grandes gueules, que de temps en temps, et c'est peut-être sain, on a envie de vous faire taire un petit peu. C'est une réaction peut-être du corpus ou du corps qui veut peut-être faire éteindre une certaine voix. C'est possible. La véritable raison, je crois que c'est aussi une manière, pour certains de mes ennemis, de m'avoir fait... payer le fait que je défende excessivement parfois peut-être Israël.
Oui, c'est ça. Il y avait
je
ça.
Suis effectivement depuis très longtemps un farouche combattant de l'antisémitisme. Je me place évidemment souvent dans une perspective extrêmement, j'aime pas ce mot, mais je vais le dire quand même, sioniste. Je suis proche du peuple juif et je suis proche des Israéliens.
C'est pour expliquer le péché de jeunesse.
Et je crois, ça j'en sais rien, faudrait voir avec des psychanalystes, et je crois que, vous savez, à chaque fois que j'ai défendu Israël, on n'est pas couché. Et de manière vraiment farouche. Et j'allais dire de manière inconditionnelle. Même s'il faut pas le dire, ça chagrine Monsieur Finkielkraut qu'on parle d'être inconditionnel. Il est le seul à avoir le droit de défendre le peuple juif. Mais, vous savez, le spectre de ces petites bandes dessinées était agité sous mon nez à chaque fois dans
c'est
la fachosphère.
Vieux dessin antisémite.
Et j'ai quand même continué ce combat. Vous savez, je suis pas quelqu'un de très politisé. C'est d'ailleurs ce qui m'a coûté cher. J'ai fréquenté dans ma jeunesse des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche. Peut-être que finalement, ma tare est de ne pas être assez politisé. C'est pas grave. On fait des mauvaises rencontres, mais on fait quand même des rencontres.
Et les plus sympas, ils sont où, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche?
Non, en fait, j'ai rencontré toute ma vie des personnages. Vous savez, c'est ce que c'est que... J'ai suffisamment de personnalité pour pas être contaminé par mes camarades de jeunesse. Et je veux dire une chose. Rencontrer des gens fous, des gens hors normes, des gens extraordinaires. C'est ça que je cherchais et que je cherche encore dans la vie. Quand je suis ami avec Gérard Depardieu, par exemple, je me fiche complètement qu'il soit ami avec Poutine. Je vois un être hors norme. Et bien souvent, les gens hors norme sont des gens qui sont pas toujours politiquement sages. Et j'ai évidemment connu des gens maoïstes. Ils étaient maoïstes en 84, des punks de 1990. Donc, si vous voulez, des espèces de dinosaures. Mais j'aime les personnalités.
Barbara Lefebvre.
Oui, je voudrais revenir un petit peu sur la question de la littérature. Chacun a ses références. Tout à l'heure, avant que l'émission commence, vous parliez de la musique. Vous disiez qu'après Michel Delpech, ça s'est arrêté. Bon, moi, en littérature, c'est après Flaubert, je me suis arrêtée. Donc,
vous avez raté Proust, alors. Bah, c'est dommage.
Tout à fait. Parce que, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impersonnalité dans l'œuvre. Ouais. Et justement, qu'on sente l'auteur partout, mais qu'on ne le voit nulle part, comme disait Flaubert. Et donc, justement, voyez, Flaubert, quand il raconte 1848, on sait que c'est un petit peu lui. Mais en même temps, c'est pas du tout lui, Frédéric. Et vous, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas d'écrire en essayant, justement, d'être dans cette impersonnalité? Pourquoi est-ce que vous mettez véritablement toute votre personnalité, tout votre être, peut-être un petit peu aussi tout votre narcissisme dans l'œuvre? Et pourquoi est-ce que vous ne disparaissez pas? Parce que finalement, cette tétralogie, ça va être vous.
Ah ben, je vous adore, vous savez.
Et pourquoi est-ce que vous disparaissez pas un peu plus pour laisser la littérature davantage?
C'est une excellente remarque. D'ailleurs, c'est tellement une bonne remarque que je me débarrasse de moi une bonne fois pour toutes avec cette tétralogie, car j'ai 7 livres d'avance là. J'ai commencé une série en 40 volumes qui va s'appeler Zoho, dans lequel je n'interviens pas. Toute proportion gardée, c'est les Rougon-Macquart du 21e siècle, ou du 20e siècle et du 21e siècle. Et donc, je parle des années 1971 jusqu'à aujourd'hui. Je n'interviens pas une seule fraction de seconde. Donc, c'est une sorte de... Ça va être 40 volumes, et j'en ai déjà écrit 6. Et donc, c'est exactement ce que vous dites là. Zoho, ça va être le titre générique. Donc, j'ai écrit les premiers tomes. Et ça, c'est des livres qui font exactement le même volume que celui-là. Et je disparais complètement. Complètement. Donc ça parlera des années 70, 80, la politique, les sciences,
la musique,
etc. La musique, tout.
Donc quand le Yann Moix de la tétralogie terminé...
D'ailleurs, j'ai fini.
Zoho, ça sera étalé sur combien d'années?
En fait, pendant 10 ans, je vais en sortir 4 par an. Donc il y aura 40 volumes. Et là, les deux prochains de la tétralogie sont écrits. Donc je vais sans doute les sortir les deux d'un coup, Verdun et Paris, au mois de janvier prochain. Et là, je serai tranquille avec moi-même.
Chez vous pour écrire, parce que là, il faut produire.
Je me lève tous les matins à 5 heures, j'écris 10 000 signes par jour, et ensuite je les retravaille au moment des épreuves, parce qu'il faut toujours retravailler ce qu'on fait. Donc voilà, ça me fait un chapitre par jour à peu près.
Donc là, vous faites la tournée
des signes, c'est énorme.
Vous faites la tournée des médias avec Reims, ensuite vous redisparaissez, ou pas? Ou la télé vous manque? Non, sinon, venez dans les GG, les grandes gueules, comme si vous l'actualité tous les jours avec nous.
Je vais pas vous mentir, j'adore la radio, j'adore la télévision. On est au 21e siècle. Et l'idée de se carapater comme Julien Gracq, que je respecte infiniment au bord de la Loire, pour espérer être en Pléiade, c'est un calcul honorable. Mais en fait, j'aime aussi être dans l'action, dans le commentaire. Moi, j'ai rien contre les commentaires. Et j'aime aussi ces chaînes où, qui sont des débats démocratiques intéressants. Je crois que je connais à peu près presque tous les intervenants ici. Et j'aime bien cette confrontation d'idées. On n'est pas obligé de regarder les chaînes 24 heures sur 24. Mais je trouve que le direct est quelque chose qui n'a pas de prix. Ah, ça, c'est... Le direct, ça vaut de l'or.
Sans les coupes et les montages.
Voilà, ouais. Ça vaut de l'or. Et tout ce qui est en direct, j'adore ça. Mm-hmm. Tout ce qui est en différé... Ça sent un petit peu la mort.
On peut toujours tout dire parce que vous-même, Yann, vous avez souvent été au cœur de polémiques, de propos, aussi bien votre amour pour les femmes de 25 ans que votre passé, vos provocations, etc. Mais j'ai l'impression que à la fois on veut du débat, du direct, et en même temps on est à l'affût de la moindre phrase, déclaration, mot qui pourrait choquer, qui pourrait ne pas être dans l'air du temps.
Mais avec les nuances qu'on tue en chemin, c'est-à-dire que c'est très à la mode de dire que les obsèques de la nuance ont eu lieu, mais c'est vrai. Sur les femmes de 25 ans, j'aurais pas dû m'excuser, je fais ce que je veux après tout.
Oui.
Point. Non, en fait, il n'y a même pas de débat. Point.
Ne jamais s'excuser.
Point. J'ai violé personne, je ne suis jamais sorti avec des mineurs. Oui, je préfère les femmes de 25 ans aux 50 ans, finalement, ça me regarde. Et attention, je fais surtout l'apologie de la différence d'âge de 10 ans. Donc en fait, si je caricature pas ma pensée, j'aime avoir 10 ans de plus qu'une femme. Voilà, c'est tout. En fait, elle est là, il n'y a pas de polémique à avoir. Si c'est 20 ans de plus, et bah 12, tant mieux.
12, non.
Non mais 20 ans, 30 ans, peu importe. Ah. J'aime bien 10 ans. Si c'est 25 ans, bah je vais dire ni tant pis ni tant mieux.
Oui, mais ça avait déclenché, on se souvient des réactions de femmes de
fait,
votre âge qui disaient mais pourquoi il dit ça? On est très bien à notre âge.
Je me souviens d'actrices de 50 ans. Je me souviens d'actrices américaines de 50 ans qui faisaient l'apologie des hommes de 25 ans, on leur a rien dit. Donc en fait, je m'excuserai pas pour mes goûts en fait.
Ouais. Sur le passé aussi peut-être un peu, parce que quand on lit votre livre, ce qui
est
surprenant,
forcément,
il y a une espèce d'autodestruction, donc c'est même pas du narcissisme, parce que pendant des pages et des pages, vous déconstruisez un point, c'est je suis pas beau, les filles ne,
à 20 ans j'étais comme ça,
filles, etc.
Non, maintenant je suis beau, riche, intelligent, voilà, mais à l'époque j'étais pauvre, laid, complexe.
Une question à vous poser, c'est de vous dire, mais est-ce que vous avez fait la paix avec vous-même, quoi?
Oui, non, heureusement, mais par la littérature uniquement. Mais vous savez, pour pouvoir écrire ça sur soi-même, il faut déjà l'avoir dépassé. Sinon, quand j'étais dans ce marasme-là, j'étais incapable d'écrire. Oui, j'ai été en proie à l'échec le plus total, et toute ma vie a consisté à essayer de s'arracher à ce miasme perpétuel de l'échec. Échec dans tous les domaines. Donc j'ai ensuite essayé d'être beau, j'ai essayé d'être intelligent, j'ai essayé d'être riche, j'ai essayé d'être en forme. Et tout ça, ça demande un travail quotidien.
Mais pour revenir à votre amitié, parce qu'il nous reste peu, mais pour parler, on n'a pas parlé politique, pour revenir à votre amitié, donc avec ce voisin militant FN, finalement, 20 ou 30 ans plus tard, le Rassemblement National est toujours au cœur de l'actualité politique, peut-être même aux portes du pouvoir, si l'on en croit certains sondages. Comment l'expliquer finalement?
Pour le rappeler, il sera peut-être ministre.
Que ce FN ou ce RN nous accompagne.
C'est pas les mêmes que le Pichon, excusez-moi.
Nous accompagne depuis tant d'années.
Je crois qu'on a. La droite était une belle idée, faut être honnête, et la droite s'est laissée impressionner par la gauche. Moi, si vous voulez, j'avais attendu beaucoup de Nicolas Sarkozy. Beaucoup. Je trouvais qu'il apportait, je parle même pas politiquement, je trouvais qu'il apportait une sorte de fermeté. La France, c'est un pays qui avait besoin à un moment donné d'un peu d'autorité, c'est pas un gros mot, de discipline, et j'ai cru à un moment donné que Nicolas Sarkozy allait sans dogmatisme incarner un moment, non pas d'autoritarisme, mais d'autorité. Et Nicolas Sarkozy a voulu pendant 5 ans se faire aimer des Inrecuptibles et du Nouvel Observateur. Il a voulu se transformer en homme de gauche et plaire à ses ennemis. Quand vous essayez de plaire à vos ennemis, vous déplaisez à tout le monde, à la fois à vos amis et vos ennemis vous méprisent d'autant plus. Et finalement, je trouve que à partir, pour répondre à votre question, la démission intellectuelle et politique de Nicolas Sarkozy a laissé en friche une droite qui n'arrive pas à se reconstruire, une droite qui incarne ses vraies idées de droite, et du coup on a maintenant pour recevoir un message de droite fort que la possibilité, que je n'accepterai personnellement jamais, que d'aller du côté de l'extrême droite. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de droite que les gens qui étaient tentés de voter à droite avant vont à l'extrême. Et on paye aussi une manière de ne plus pouvoir dire des mots. Je regardais hier, vous allez me prendre pour un fou, l'heure de vérité d'Edouard Balladur de 1988. Mmh. Balladur est quelqu'un d'extrêmement mesuré. Il expliquait sans provocation qu'il y avait un problème, c'est en 92, parce qu'il parlait du fils, des événements d'Algérie. Il expliquait sans aucun problème qu'il fallait peut-être s'interroger sur l'immigration en France, sans dire tout le monde dehors et sans non plus faire d'angélisme tout le monde dedans. Mais il disait qu'il fallait peut-être posément s'interroger sur l'immigration. Eh bien, je trouve que laisser le problème de l'immigration aujourd'hui au Front National, c'est criminel, parce qu'ils ne sont incapables de se poser posément la question. Eux, c'est les Arabes dehors. Ça, c'est inadmissible et c'est inaudible.
Merci Yann Moix. Le livre s'appelle Reims, c'est un roman, c'est aux éditions Grasset. Merci d'être passé
par
les GG. Et si vous voulez rejoindre la bande des Grandes Gueules,
Je suis à votre disposition, vous m'appelez de temps en temps et je viendrai tranquillement. Je viendrai à pied, ça me fera un peu de sport.